Chapitre 8. Le lendemain du jour où le comte Semenkov avait été reçu par le prince de Wittenrath, Marulia, femme de chambre de la comtesse, tomba si malheureusement dans un escalier qu'elle se fractura la jambe. Il fallut aussitôt lui chercher une remplaçante. Parmi les personnes qui se présentèrent à cet effet se trouvait une jolie fille blonde assez prétentieuse. Elle ne possédait pas de certificat, n'ayant jamais servi encore, et quand la comtesse parla de référence, elle manifesta un certain embarras. « Nous connaissons très peu de monde, mes parents et moi. Nous sommes depuis très peu de temps à Pétersbourg. Que fait votre père ? Il est malade, c'est pourquoi je dois me placer afin de subvenir aux besoins des miens. Mais avant d'être malade, que faisait-il ? Il était intendant. C'est sa santé qui l'a obligé. Intendant ? Chez qui ? » La jeune fille hésita avant de répondre d'une voix troublée. « Chez le prince de Wittenrath. » Mira, qui assistait à l'interrogatoire, demanda vivement « À Stanitsa, peut-être ?» L'autre blêmit, hésita encore et balbutia enfin « Oui, à Stanitsa, mademoiselle. » Mira eut une exclamation de triomphe. « Stanitsa, Stanitsa, votre père était là encore quand le prince y vint résider quelque temps en septembre dernier ?»« Oui, mademoiselle, vous connaissez son Altesse ?»« Oui, oui, mais vous, sans doute, vous connaissez quelqu'un d'autre, quelqu'un que je voudrais bien connaître aussi, moi. »« Mira, je t'en prie, pas d'imprudence, » dit la comtesse avec un regard inquiet. Mais Mira ne parut pas l'entendre. Elle se leva et alla poser sa main sur l'épaule de la jeune fille, visiblement effarée. « Dites-moi, vous, est-ce que votre père n'a pas été envoyé en Sibérie sur recommandation expresse du prince de Wittenrath ?» Dounia fléchit sur ses jambes et bégaya. « Comment savez-vous ? Je sais bien des choses, vous allez voir. » Srenov, l'intendant de Stanitsa, n'avait pas montré, paraît-il, une scrupuleuse honnêteté dans ses fonctions. Mais, aux yeux du maître, son plus grand crime était d'avoir mal parlé d'une certaine jeune personne que son Altesse honorait de sa faveur. Est-ce bien cela, dites ? Ne me demandez pas cela. Je ne puis rien dire. Son Altesse nous a menacés. Un frisson agita Dounia, des pieds à la tête, et son regard terrifié se détourna des yeux ardents qui la scrutaient. « Ne craignez rien, ce n'est pas moi qui irai vous trahir. Cette jeune fille, cette Lilia Vérine, est donc la cause de votre malheur à tous. » Une flamme de haine jaillit des yeux bleus. « Oui, » dit sourdement Dounia, « si mon père est pour des années en Sibérie, si nous sommes dans la pauvreté, c'est à elle que nous le devons. » « Ah, si du moins j'avais pu !» Elle s'interrompit avec un tressaillement d'effroi. Mira dit à mi-voix, « Vous vengez, n'est-ce pas? Vous la détestez, naturellement ?» Dounia ne répondit pas et détourna ses yeux que cherchaient ceux de Mademoiselle Nadopoulo. « Elle est très belle, cette Lilia ?»« Oui, ça dépend des goûts. » Mira eut un rire aigu. « Bon, vous en êtes jalouse, terriblement jalouse peut-être. » Le visage de Dounia se contracta, mais ses lèvres restèrent closes. « Allons, je ne veux pas forcer vos confidences. Comment vous appelez-vous »«
Dounia Petrovna Srednov, mademoiselle. »«
Eh bien, Dounia, nous vous prenons à notre service, n'est-ce pas, maman ?» Sur un geste d'acquiescement peu empressé de sa mère, mademoiselle Nadopoulo ajouta « Nous nous entendrons bien, j'en suis certaine. » Et je vous promets de garder le secret le plus absolu sur ce que vous venez de me dire, car j'ai le malheur de connaître le prince de Wittenrath, et je me doute de quoi il est capable lorsqu'il poursuit quelqu'un de son ressentiment. » Quand la nouvelle femme de chambre se fut éloignée, en promettant de venir prendre son poste le soir même, Mira déclara « Cette fille peut m'être très utile. J'ai vu dans ses yeux le désir de la vengeance. » La pauvre, naturellement, s'est toquée, elle aussi, du prince. Un rire sarcastique s'échappa des lèvres de Mira. C'est le sort commun à toutes celles qui l'approchent. Mais, en dépit de sa haine pour cette Lilia, j'aurai peut-être à la faire agir, car elle paraît terrifiée par les menaces probablement redoutables qui lui ont été faites. Mon enfant, que médites-tu ?
Vraiment, tu m'effraies avec ta jalousie. Cependant, par l'exemple de ces Srednov, tu vois qu'on ne s'attaque pas impunément à celle que le prince favorise de sa protection. Ah, tant pis, mais je ne puis supporter l'idée qu'elle vit près de lui, heureuse, aimée, tandis que moi... Non, j'en deviendrai folle. Elle se leva brusquement, se mit à marcher de long en large à travers le salon. Ainsi, vêtue d'une robe soyeuse à rayures fauves, avec ses yeux brillants d'une lueur mauvaise et le retroussis des lèvres sur les dents aiguës, elle donnait l'impression saisissante d'une jeune panthère en cage. Sa mère, qui la suivait d'un regard soucieux, dit au bout d'un long moment de silence « Allons, tâche de te calmer, mon cœur. Va t'habiller, car nous avons quelqu'un ce soir à dîner. » « Ah oui, Gremlin, mon vieux prétendant. Sa cassette me plairait, à défaut de sa personne, et puis je le ferai marcher comme une marionnette. Mais je le laisserai soupirer quelque temps encore, cet excellent Pierre Ivanitch, avant de me décider. » Sois suffisamment aimable, cependant, pour ne pas le décourager. Sa fortune vaut la peine qu'on oublie ses 60 ans, son bégaiement, son physique un peu... Décati. Oui, ne crains rien, je lui donnerai la douche écossaise. Rien de tel pour bien tenir en main un soupirant. » Avec un rire mauvais, Mira sortit du salon. Mais elle y rentra presque aussitôt en demandant... « Sais-tu, maman, si André Pavlovitch est retourné chez le prince de Wittengrass ?»« Il ne m'en a rien dit en tout cas. Je sais seulement que le prince lui avait parlé d'une prochaine invitation. »« Informe-toi de cela. Il faut qu'il cultive ses relations tant que l'humeur de son Altesse n'a pas tourné, ce qui, d'ailleurs, peut se produire d'un jour à l'autre. Alors, le comte Zemienkov sera pour lui comme s'il n'avait jamais existé. » Âprement, après un court silence, elle ajouta « Je sais par moi-même comment cela se passe. » Une dizaine de jours plus tard, au cours d'un bal donné à l'ambassade de France, Mira se rencontra avec le prince de Wittengrass. Depuis son retour à Pétersbourg, elle ne l'avait encore aperçu que de loin, en quelques rares occasions, à une parade militaire où il venait en tête de son régiment, à son passage en traîneau sur la perspective Niouski, et un soir, dans sa loge au Théâtre Michel. Cette année, il semblait peu disposé à se montrer dans le monde. Aussitôt rempli les obligations de son rang et de sa situation militaire, il retournait à son palais de Tsarskoï, où, chuchotait-on, il allait retrouver une jeune femme belle comme le jour, selon l'expression des vieux conteurs, qu'il tenait jalousement prisonnière. Personne n'y était reçu, pas même ses parents les grands-ducs, pas même ses intimes, sauf toutefois le colonel Korff. Il n'en fallait pas tant pour exciter les plus ardentes curiosités, surtout depuis que quelques personnes racontaient avoir entrevu, derrière les vitres de la voiture princière, en promenade aux environs de Tsarskoï, le plus charmant visage qu'on pût rêver. L'un de ses privilégiés, Alexandre Jorski, officier des Cosaques du convoi de l'empereur, comptait ce soir-là ses impressions à un cercle d'auditeurs fort intéressés, parmi lesquels se glissait Mira, toute frémissante encore, du regard d'altier dédain qu'il avait effleuré. « J'ai croisé la voiture sur une route en pleine campagne. Les chevaux marchaient à belle allure, mais j'ai eu le temps d'apercevoir cette merveille de beauté assise près du prince. Ah, je donnerais beaucoup pour la revoir à loisir !» Auriez-vous envie de vous poser en rival de son Altesse ? Demanda en riant un attaché d'ambassade. Ciel, qui l'oserait ? La présomption serait trop grande et une telle audace coûterait cher. La comtesse Sangzo demanda : N'est-elle pas toute jeune, l'air d'une enfant presque ? Non, pas d'une enfant, mais très jeune certainement. La vision a d'ailleurs été si rapide que je n'ai eu qu'une impression d'ensemble. Et vous n'avez pas pu être renseigné à son sujet ? Impossible, tout le personnel est muet chez le prince de Wittengrass. Il serait pourtant intéressant de savoir qui elle est, cette inconnue qui l'entoure de tant de mystères et qui doit lui inspirer une bien grande passion pour qu'en sa faveur, il change ainsi ses habitudes, lui si orgueilleusement indépendant. Certes, aussi n'ai-je pas renoncé à mon enquête. Un hasard, du reste, peut nous donner la clé de l'énigme. » La comtesse Sangzo désigna d'un coup d'œil la princesse Alexandrine, assise au milieu d'un cercle empressé. « Voilà quelqu'un qui ne doit pas être satisfait de cela. Elle avait coutume jusqu'alors de passer la fin de l'hiver à Tsarskoï, où le prince ne s'installait qu'au printemps. Que voulez-vous ? Il est le maître. Sa grand-mère n'a eu qu'à s'incliner quand il lui a appris que cet hiver, c'était lui qui habiterait le palais de Tsarskoï, lui et une autre. Mais de cela, il n'a probablement pas informé la princesse. » Mira s'éloigna le cœur battant. Ainsi, elle était bien là, dans le petit palais byzantin. D'autres, plus heureux que Mademoiselle Nadopoulou, l'avaient aperçue. Il l'a cachée. Pourquoi ? Si l'on parvenait à le savoir, ne trouverait-on pas là quelque bon moyen de vengeance ? Monsieur Gremlin, un fonctionnaire de la cour, sexagénaire et fort riche, qui courtisait Mira depuis quelque temps, s'approcha d'elle et lui adressa un long compliment, suivi de considérations diverses sur la soirée à laquelle ils assistaient. Elle l'écoutait d'une oreille distraite et répondait par monosyllabes, tandis que toute son attention se concentrait sur la silhouette élégante et altière du colonel de chevalier garde, qui, en allant et venant à travers les salons, s'entretenait avec le lieutenant de Creuilly, arrivé depuis 2 jours à Saint-Pétersbourg, comme membre d'une mission militaire. À un moment, ils passèrent près de Gremlin et de Mira. L'oreille très fine de Mademoiselle Nadopoulou perçut cette phrase, prononcée pourtant à voix presque basse. « Demain, venez dîner à mon palais de Tsarskoï. Là, je vous réserve une surprise. » Quelques instants plus tard, le prince de Wittengrass se retirait, reconduit jusqu'à sa voiture par l'ambassadeur. Maintenant, il ne faisait plus que des apparitions. Très vite, il retournait vers la demeure où l'attendait la jeune épousée, à laquelle, avec son amour, il donnait la plus entière fidélité. Ce changement dans ses habitudes ne pouvait passer inaperçu chez une personnalité aussi en vue, et de l'avis unanime, il dénotait qu'il était enfin dominé par une puissante, exclusive passion. Mira, plus que tout autre, en demeurait persuadée. Tandis qu'un peu plus tard elle songeait à la phrase entendue au passage, il lui revint à la mémoire que le prince, à Uxage, lui avait dit un jour « J'ai invité le lieutenant de Creuilly à venir chasser avec moi dans mon domaine de Sanitza. C'est un charmant compagnon qui me plaît beaucoup. » Or, là-bas, l'officier français avait connu Lilia Vérine et, honoré des confidences de son hôte, il se trouvait au courant du secret dérobé à tous. Voilà pourquoi, évidemment, il était invité à dîner au palais de Wittengrass avec la belle inconnue.